Ce matin, j'aimerais vous prêcher dans l'Épître aux Romains. Ça va être un rappel pour la plupart d'entre vous, mais ma prière, c'est que l'Épître aux Romains, pour qu'on parte chacun d'entre nous, ça soit clair, le plan de Dieu pour nous, ce qu'est l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, ce n'est pas juste pour être sauvé. C'est aussi pour vivre à chaque jour avec le Seigneur. Et on va regarder ça ensemble. À mon église à Valleyfield, j'ai enseigné pour la troisième fois l'Épître aux Romains cette année. J'ai trouvé ça tellement bon, tellement riche, tellement édifiant. Je me suis dit, il faut que je fasse une prédication là-dessus pour le résumer puis que ça soit clair. Qu'est-ce que l'apôtre Paul il nous enseigne au travers les chapitres 1 à 8, qui culmine au chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Les chrétiens, on est des affranchis. On est libéré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il faut comprendre les chapitres 1 jusqu'à 8 pour saisir qu'est-ce que ça implique pour nos vies. Bien, prions le Seigneur. Seigneur, on veut te remercier de la bénédiction qu'on a d'être ensemble réunis ce matin, d'avoir été adoptés comme tes enfants bien-aimés et de faire partie de la merveilleuse famille des enfants de Dieu. Merci de nous avoir révélé l'Évangile. Et nous te demandons ce matin d'avoir une révélation encore plus grande de cet Évangile qui nous affranchit, qui nous libère, qui fait de nous une nouvelle créature en Jésus-Christ. Éclaire nos cœurs, nos pensées, par ton Saint-Esprit, notre intelligence, pour qu'on puisse en saisir la portée et qu'est-ce que ça change dans nos vies de chaque jour. T'en prions au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Paul écrit l'Épître aux Romains pas tellement longtemps après son séjour à Éphèse. Il a été 2 ans à Éphèse à enseigner à chaque jour à l'école de Tyrannus. Au point que les Actes nous disent que pratiquement toute la province de l'Asie, qui est aujourd'hui la Turquie, qui avait entendu l'Évangile. Alors, c'est constamment des gens qui venaient, des visiteurs, des gens qui venaient entendre Paul enseigner. Et vous savez, quand on enseigne depuis un certain temps, on s'aperçoit que c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Et l'apôtre Paul, bien, après avoir enseigné pendant 2 ans, bien, il connaissait les questions, puis il avait réfléchi, il avait médité, il savait comment y répondre. Alors, quand il écrit l'Épître aux Romains, il savait exactement quelles allaient être les questions que les gens allaient avoir, et il savait exactement comment y répondre. Et c'est ce qu'il fait. Il va aborder chacune des questions pour y répondre, afin que l'objectif, que les chrétiens soient affranchis par l'Évangile, vivent comme libérés totalement par l'Évangile. Vous savez que la plupart des grandes réformes et des grands réveils de l'histoire ont été influencés par l'Épître aux Romains. Martin Luther s'est converti à saisi la grâce de Dieu en lisant l'Épître aux Romains. Personnellement, je me suis converti, j'ai saisi la grâce de Dieu en lisant l'Épître aux Romains. C'est une épître fondamentale, puis je pense que ce n'est pas pour rien que ceux qui ont mis les livres du Nouveau Testament dans un ordre, qui ont mis l'Épître aux Romains parmi les premières épîtres de l'apôtre Paul. Le verset clé, on m'a donné une petite manette. On va la sortir. OK. Pour avancer, je pèse, j'imagine, sur le piton qui est effacé. Voilà. Le verset clé de l'épître qui introduit, qui présente tout le thème de l'épître est le verset 16 et 17, chapitre 1, car je n'ai pas honte de l'Évangile. Et là, notez bien deux mots. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et là, pensez pas que le mot salut, c'est juste entrer dans la vie éternelle, avoir la vie éternelle, devenir chrétien. Dans l'apôtre Paul, le mot salut, c'est plus que ça. C'est d'être affranchi, d'être libéré en Jésus-Christ. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, c'est-à-dire les non-juifs. En effet, deuxième mot, la justice de Dieu s'y révèle. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors l'apôtre Paul répond à deux besoins essentiels. Comment devenir juste devant Dieu et comment vivre une vie juste sous le regard de Dieu? Est juste celui qui pratique la justice selon Dieu, décrétée par Dieu? Vous savez, justice et sainteté, c'est deux mots qui sont très proches, hein? La sainteté, c'est n'avoir aucun péché, ne pratiquer aucun péché. Et la justice, c'est pratiquer ce qui est juste. C'est vraiment très, très proche. Donc, quand on parle de la sainteté, c'est un état d'être, puis la justice, c'est dans la pratique, dans le vécu. Paul va démontrer, premièrement, qu'on a tous besoin, sans exception, d'être trouvés justes devant Dieu, pouvoir vivre en sa présence. Parce que, première chose qu'il va dire, c'est qu'on est tous sous la colère de Dieu. Paul va démontrer que tous, sans exception, on est sous sa colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous savez, il y en a plusieurs parmi nous qui ont un sens élevé de la justice. Et quand ils vivent une injustice ou ils sont témoins d'une injustice, ça vient les chercher profondément et ça suscite une colère. Eh bien, pensez que Dieu aime sans exception tous ceux et celles qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Et quand une injustice est commise envers une autre personne qu'il aime, eh bien, ça suscite sa juste colère. Pas une saute d'humeur émotive. C'est une colère qui est juste, qui est réfléchie, qui est modérée, qui est parfaite, qui est patiente. Nous, on connaît pas beaucoup ce type de colère-là. Mais Dieu, sa colère, elle est sans péché. Elle est patiente, modérée, réfléchie, juste. C'est important de saisir ça. Et c'est la colère de Dieu se révèle du ciel. Deux choses que Paul va mentionner, l'impiété et l'injustice. L'impiété, c'est quoi? Eh bien, l'impiété, c'est envers Dieu de ne pas lui rendre l'honneur, la gloire et l'adoration qui lui est due. Autrement dit, de ne pas le reconnaître, qu'il est notre Créateur et notre Dieu. L'injustice, c'est le mal qu'on se fait les uns les autres, puis le mal qu'on fait envers Dieu. Donc, la colère de Dieu se révèle contre, envers les hommes, à cause qu'on ne reconnaît pas Dieu, on se fait du mal les uns aux autres et qui retiennent injustement la vérité captive parce que Dieu se révèle dans sa création. Et là, Paul, au chapitre 1, il va mentionner une dégradation dans le péché. C'est-à-dire, il y a trois fois, il va utiliser l'expression suivante dans le chapitre 1, Dieu les a livrés. C'est-à-dire, ça commence par l'impiété, on met Dieu de côté, on ne le reconnaît pas. Et là, Paul va dire, Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Puis il va dire, il va les livrer à des passions sexuelles déshonorantes. Et finalement, il va les livrer à l'iniquité, c'est-à-dire à la méchanceté les uns envers les autres. Ah, on a juste à penser à notre société québécoise qui a mis Dieu de côté dans les années 60. Qu'est-ce qui a suivi tout de suite après? La libération sexuelle. Qu'est-ce qui a suivi une vingtaine d'années plus tard? Hein, la perversion sexuelle. Et qu'est-ce qui va suivre? Qui a déjà commencé, c'est l'iniquité, les progrès de l'iniquité. Ainsi, il y a une gradation dans le péché. Vous savez, Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Elle a passé exactement par ces mêmes étapes-là. Je viens de lire le livre des Juges, puis la ville de Béthel a passé exactement par ces mêmes étapes-là, puis se sont retrouvés à cette étape-là. Puis notre monde va suivre, avant que le Seigneur Jésus revienne, va suivre exactement les mêmes étapes. Dans une société, alors, la colère de Dieu est envers l'immoralité, mais dans une société, il n'y a pas juste des personnes immorales. Il y a des personnes aussi qui sont en réaction à l'immoralité et qui vont avoir des valeurs morales. Eh bien, Paul va adresser, il va adresser la prochaine catégorie, les personnes qui ont des valeurs morales. Une personne qui a une valeur plus morale que le reste de la société. Elle juge que telle action, telle action, telle chose n'est pas correcte. Elle ne les fait pas. Et Paul va reprendre ces personnes-là en disant que leur problème, c'est qu'au lieu d'utiliser leur jugement pour réaliser qu'ils ne sont pas parfaits dans leur mo propre moralité, et en plus, ils se permettent de juger les autres comme étant indignes, sont pas animés de compassion et d'amour, mais de jugement. Et le verset clé ici, c'est Paul va dire, tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. C'est-à-dire, même une personne qui a une certaine moralité, elle n'est pas parfaite dans sa moralité, elle va être elle-même à certains points de vue immorale, et en plus, elle va porter des jugements, ce qui n'est pas le cœur de Dieu. Troisièmement, dans une société, bien, il y a des personnes immorales, il y a des personnes morales, et il y a des personnes religieuses qui, en plus d'avoir des valeurs morales, eh bien, cherche à s'approcher de Dieu. Alors, Paul va adresser ici la situation des Juifs. Le problème des personnes religieuses, c'est qu'elles pensent que parce qu'elles connaissent la volonté de Dieu, qu'elles connaissent la loi, la parole de Dieu, parce qu'ils ont de la connaissance puis qu'ils pratiquent la religion, ils pensent qu'ils sont corrects. Puis qui vont être acceptés par Dieu. L'apôtre Paul y répond que ce n'est pas la connaissance ni la pratique d'une religion qui rend juste, mais une obéissance parfaite à tous les commandements de Dieu. Et là, Paul va dire, toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Il va dire plus tard que la connaissance de la loi devrait t'amener à reconnaître que tu es pécheur, que tu ne mets pas en pratique toute la loi pour te repentir. Le problème des religieux, ces personnes religieuses, c'est que trop souvent, elles se justifient sur leur connaissance et leur pratique et ne se repentent pas. Ils ne reconnaissent pas leur péché et ne s'en repentent pas. Alors, tu as beau avoir grandi dans une famille croyante, avoir été enseigné dans la parole de Dieu, eh bien, ce n'est pas ça qui va t'épargner du juste jugement de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire, ce qui compte, ce n'est pas la circoncision dans la chair, c'est-à-dire que pour les Juifs, appartenir au peuple, le signe d'appartenance au peuple de Dieu, c'est la circoncision. Donc, mais il va dire, ce qui est important, c'est la circoncision du cœur. Même ça, les prophètes dans l'Ancien Testament l'ont dit. Et il va donc arriver à la conclusion à la fin du chapitre, c'est-à-dire au chapitre 3, que tous, sans exception, méritent la juste colère de Dieu. Hein, ce que l'Ancien Testament déclare même, il n'y a pas de juste, pas même un seul, afin que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Autant les immoraux que les personnes qui ont des valeurs morales, que les personnes religieuses ne peuvent être trouvées justes devant Dieu. Alors là vient immédiatement la question, mais d'abord, s'il n'y a pas personne sur Terre qui est capable d'être trouvé juste devant Dieu, comment on fait? Comment on fait pour aller dans la présence de Dieu? Eh bien, c'est par la justice, par la foi en Jésus-Christ. Dieu a tellement aimé chacun d'entre vous, chacun personnellement qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Jésus, il a fait quelque chose de très spécial pour chacun de vous. Quelque chose de vraiment spécial. Voici le passage clé. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de sa présence, et ils sont gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Chérie, pourrais-tu te demander de m'apporter ma bouteille d'eau, s'il te plaît? Allez faire connaissance avec mon épouse. Je vous présente Joanne. Merci. Merci, chérie. Le péché, c'est comme un virus qui a contaminé toute l'humanité puis l'a rendu fou contre Dieu. Une définition que je donnerais du péché, c'est une puissance de rébellion et de. Oh, je l'ai écrit plus loin. Oh, j'ai un blanc. Une puissance d'égarement et de rébellion contre Dieu. Une puissance d'égarement, on conçoit, on pense, on invente toutes sortes de choses à part l'Évangile, une puissance d'égarement et de rébellion contre Dieu. Quand on entend l'Évangile, on se dit non, ça ne se peut pas. Ça ne peut pas être ça, ce n'est pas vrai. Et il n'y a rien qu'on peut y faire. Le péché nous met sous la colère de Dieu, mais une séparation entre nous et Dieu. Et il y a seul Dieu qui peut faire quelque chose. Il y a seul Dieu qui peut nous affranchir. La justice que Dieu exige pour entrer dans sa présence nous est donnée, il y a là un mot merveilleux qui est écrit ici, gratuitement. Ça, les êtres humains, on a de la misère avec ça. Pourquoi? Parce que faut qu'on fasse quelque chose. Première fois que j'ai entendu l'Évangile, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Faut que je fasse quelque chose. Il y a un homme qui vient à mon église, ça fait 3-4 ans. Il a fait profession de foi 3-4 fois. Il comprend l'Évangile. Il pourrait l'expliquer à quelqu'un d'autre, mais ça ne rentre pas dans la tête que c'est gratuit. Et à chaque fois qu'on a une conversation, il me dit, je sens dans ses paroles qu'il faut qu'il le mérite. Il faut qu'il change pour être acceptable à Dieu. Ben non. La bonne nouvelle, c'est que c'est offert gratuitement en Jésus-Christ. La rédemption, c'est un grand mot, hein, qu'on peut simplifier par le mot rachat, qui est un mot qui était employé quand un esclave était vendu au marché. Quelqu'un pouvait venir payer, hein, le prix de son achat, il pouvait le payer et le déclarer libre, un homme libre. Bien, Jésus-Christ a payé le prix de notre achat pour qu'on soit affranchi, qu'on soit libéré, pardonné de tous nos péchés et revêtu de la justice parfaite de Christ. L'apôtre Paul, dans ses épîtres, il utilise souvent l'image, hein, de revêtir. Et l'image est la suivante. C'est à chaque fois qu'on commet un péché, que ce soit une impiété envers Dieu ou une iniquité envers les autres, à chaque fois qu'on fait un péché, c'est comme s'il y avait une tache sur notre vêtement, une déchirure, une saleté. Puis après qu'on a vécu quelques années, un certain temps, bien vient que notre vêtement, bien c'est une guenille, c'est un haillon, tout déchiré, tout sale. Juste bon pour la poubelle. Et là, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait quand je me repens mon état de pécheur, puis que je reçois gratuitement, hein, le pardon de mes péchés, puis la vie éternelle en Jésus-Christ? Bien, Jésus, il fait une chose. Lui, il est le seul être humain à avoir vécu une vie parfaitement juste. Fait que lui, son vêtement, aucune tache, aucune déchirure, aucune saleté. Il est blanc, il est comme neuf. Mais quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, il prend son vêtement immaculé, non, c'est-à-dire, il prend ton vieux vêtement puis il l'enlève. Il prend son vêtement immaculé, qui est tout neuf, puis il t'en revêt, te revêt de sa justice parfaite. Puis ton vêtement tout sale, tout en haillons, Jésus-Christ l'a revêtu et il a porté à la croix ta condamnation. Ça, c'est une image du mot rédemption. Et ça, c'est offert gratuitement. Ça prend une révélation de l'Esprit de Dieu pour le saisir. Humainement parlant, on ne peut pas saisir ça. Et quand on a eu cette révélation et qu'on l'a saisie par la foi, c'est de l'accepter, c'est de le saisir et de la faire mienne, cette réalité. Jésus, je mérite la juste colère de Dieu pour mes péchés, d'être condamné éternellement. Jésus a porté mes péchés, ma condamnation sur la croix. Et j'ai reçu son pardon, j'ai reçu la vie éternelle, je suis enfant de Dieu. Alors, la seule chose qu'on a à faire, c'est de l'accepter, le recevoir par la foi. L'as-tu reçu? J'espère que oui. J'espère que tu l'as reçu. Sinon, je t'invite à le faire ce matin, aujourd'hui même, sans tarder. Après avoir présenté la solution, mais Paul savait très bien que les Juifs pratiquants allaient poser la question suivante. Mais nos ancêtres, hein, les fondateurs de de notre peuple, de notre foi? N'ont-ils pas été justifiés par la pratique de la loi? Eh bien, Paul va répondre à ça au chapitre 4. Il va dire, non, ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau. C'était même dans l'Ancien Testament. La justice par la foi dans l'Ancien Testament. Abraham lui-même, hein, l'ancêtre du peuple juif, eh bien, Paul va dire que, c'est-à-dire que la parole de Dieu dit qu'il a cru à Dieu et cela lui fut compté à justice. Alors même au tout début, hein, de l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, Dieu avait inscrit dans sa parole, dans le livre de Genèse, que c'est par la foi que la justice allait être mise au compte de celui qui croit. Non seulement Abraham, mais même David. David qui a vécu sous la loi, mais qui l'a écrit dans les psaumes, le bonheur d'être pardonné par pure grâce, et que la justice a été mise à son compte sans les œuvres. Alors même David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, comme le modèle qui inspire tout le peuple juif de qui va venir le Messie, a lui-même déclaré que il a connu la grâce, il a connu le pardon, il a connu la libération. Hein? Alors, c'est non seulement une révélation en Jésus-Christ, mais c'était même dans l'Ancien Testament. Paul va même dire que la loi produit la colère parce qu'il nous est impossible de mettre en pratique parfaitement tout ce que la loi demande. Paul va expliquer au chapitre 5 maintenant les fruits de la justice obtenue par la foi. Premièrement, la paix. On a chanté le premier chant ce matin, quel repos. Eh bien, le premier fruit, quand on reçoit, hein, la vie éternelle, on reçoit la grâce, c'est-à-dire le pardon de nos péchés, c'est une paix immense qui remplit nos cœurs. C'est le premier fruit. Étant donc justifié par la foi avec Dieu, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a été condamné à notre place. On a une paix extraordinaire qui remplit nos cœurs. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, hein, le même amour qui a animé Jésus-Christ à aller à la croix pour nous, vient remplir nos cœurs par le Saint-Esprit. Et finalement, la réconciliation. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. On a le privilège de goûter une communion avec Dieu, de pouvoir nous adresser à lui sans aucune crainte, en toute liberté. On peut approcher le trône de la grâce pour obtenir le secours pour tous nos besoins. Quelle bénédiction! Qu'est-ce qui arrive avec la loi maintenant? Pour les Juifs, les jeunes chrétiens qui étaient enseignés dans l'Ancien Testament, ils pouvaient poser la question, il arrive quoi avec la loi? Eh bien, Paul va dire un verset clé ici, chapitre 5, verset 20. Elle est intervenue pour que la faute soit amplifiée, mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Et là, Paul, il sait très bien qu'en disant une phrase comme ça, il y a des questions qui vont venir. Et il sait très bien qu'une bonne partie de ceux qui entendent son enseignement vont tirer des mauvaises conclusions. Ils vont avoir une mauvaise compréhension de la grâce. D'autres vont avoir une mauvaise compréhension de la loi. Puis la plupart, ça va être les deux. Alors, dans les chapitres qui viennent, chapitres 6 et 7, il va répondre à ces deux problèmes-là, qui sont extrêmement fréquents. Vous allez voir, quand je vais vous en parler, vous allez dire, ouais, c'est vrai que c'est pas mal fréquent, pas mal commun comme problème. Une mauvaise conception de la grâce et au chapitre 7, une mauvaise conception de la loi. Premièrement, il va nous dire que la grâce affranchit du péché. Et Paul va utiliser une expression, il va dire qu'on est mort comme chrétien, né de l'Esprit, on est mort au péché. Paul savait très bien qu'en entendant juste avant, là, hein, là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé, il sait très bien qu'il y en a qui vont dire, hey, mais puisqu'on est sous la grâce, je peux pécher autant que je veux. Il n'y aura pas de condamnation. Il y en a d'autres qui vont être scandalisés parce qu'ils vont penser que c'est ça que Paul veut dire. Coudonc, Paul, t'es-tu en train de dire qu'on peut pécher tant qu'on veut, que ce n'est pas grave parce qu'on est sous la grâce? Et là, ils sont scandalisés. Alors, Paul va répondre à cette première question-là. Alors, il va répondre premièrement, est-ce que la grâce a surabondé, ça veut dire qu'on peut pécher tant qu'on veut? Absolument pas. Et là, il va expliquer. Il va dire qu'on est mort au péché. Et il va prendre l'illustration du baptême. Hein? On a été unis en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection. C'est-à-dire, quand j'ai cru que je méritais la condamnation pour mes péchés, j'ai condamné le péché. Et quand j'ai cru que j'ai été ressuscité en Jésus-Christ à une nouvelle vue, je crois que je suis appelé à vivre une vie nouvelle. Donc, quand j'ai cru en Jésus-Christ, et quand j'ai choisi de me faire baptiser, j'ai fait le choix de mourir au péché et de vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ. Le péché est comme, j'allais dire dans la bouche de l'apôtre Paul, mais dans ses écrits, pour l'apôtre Paul, il y a péché et péché. Péché au singulier et péché au pluriel. Il y a la racine, puis il y a les fruits. Puis ce qui produit les fruits, comme les pissenlits, ça arrache juste les fleurs, ça repousse. S'il y a des fruits, c'est parce qu'il y a une racine. Et la racine, c'est une puissance d'égarement et de rébellion contre Dieu. Donc, Paul est en train de dire, si je m'abandonne à mes péchés, bien, je suis sous la domination d'un mauvais maître alors que j'ai changé de maître. Le péché a été ligoté comme un mauvais maître qui a été arrêté puis mis en prison. Et là, j'ai un bon maître qui m'appelle à le servir. Et là, Paul va donner la solution, versets 11 et 13. Que faire dans cette situation-là? Il va dire, vous-même, considérez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, considérez-vous comme mort et ressuscité en lui. Et au verset 13, ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Un mot extrêmement important, livrez-vous, offrez-vous, on pourrait traduire abandonnez-vous, donnez-vous. Alors Paul va dire, première étape, bien, croyez ce que Dieu a accompli en vous par son esprit. Il vous a libéré de votre ancien maître, qui était le péché, et il vous a donné un excellent maître, qui est Jésus-Christ, afin de le servir et de le suivre. Croyez-le. Deuxièmement, vous avez besoin de vous livrer, de vous abandonner, de vous donner à Dieu pour faire sa volonté. Alors, les deux premières réactions que les gens pouvaient avoir en entendant Paul que la grâce a surabondé, ont été répondues. Il reste une troisième. Certains vont se dire, ouais, c'est correct, je dois pas m'abandonner. Je comprends, je ne dois pas m'abandonner au péché, mais du fait que je suis sous la grâce, si jamais je fais un petit péché ou un ou deux péchés, ce n'est pas si grave parce que je suis sous la grâce. Ils avaient tout entendu les questions, Paul. Il va dire encore là, jamais de la vie. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Parce que quand tu te permets un péché ne reste jamais seul. Rappelez-vous de cette phrase-là. Le problème, c'est que on attriste l'Esprit Saint, puis on glisse vers notre ancien maître, la puissance du péché. Un péché ne reste jamais seul. C'est comme quand on dit un petit mensonge. Oh, c'est pas grave. C'est juste un petit mensonge. Mais là, dans la conversation, on nous pose des questions, puis là, pour abriter mon premier mensonge, dois-je couvrir puis dire d'autres mensonges, puis quand le poteau rose est découvert, c'est un tas de menteries. Ben, un péché ne reste jamais seul. Fait que si on s'en permet un seul, ben on entre dans une pente glissante. C'est comme si on allait glisser sur une luge. Ben, quand on commence la pente, c'est difficile d'arrêter, hein? Bien, c'est comme ça que quand on se permet un péché. Fait que le désir de Dieu, c'est que dès qu'on s'aperçoit qu'on a péché, c'est de s'en repentir tout de suite pour ne pas continuer dans la pente glissante parce qu'il ne restera jamais tout seul. Alors, il faut décider quel. Paul va dire, il faut décider à quel maître tu veux obéir, du péché qui conduit à la mort ou de la justice qui conduit à la vie. Et Paul va répéter, mais comme vous êtes déjà livré à Christ pour vivre en lui, mais continuez. Livrez-vous à Dieu pour que son esprit vous libère et produise la sanctification. Et Paul va dire, maintenant affranchi du péché et esclave de Dieu. Hein, il joue avec les mots, là. Vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Comment vivre une vie juste devant Dieu? Eh bien, en se livrant à Dieu, en s'abandonnant à lui, puis dès qu'on s'aperçoit qu'on a commis un péché, puis on en fait tous, j'en fais encore à tous les jours, mais dès qu'on s'en aperçoit, oh, Seigneur, je viens de passer à côté, je te demande pardon. Conduis-moi par ton esprit. C'est toi que je veux suivre. Et là, ben, on se remet à la bonne place. Et c'est lui qui va produire la sanctification dans nos vies. Alors, c'est à chaque jour, à chaque fois que je pêche, que je dois me repentir et à nouveau me livrer à Dieu. À ce point-ci, Paul, il sait très bien, hein, que les Juifs qui l'entendent vont dire, ben, Paul, c'est bon ce que tu dis, là, on ne doit pas s'abandonner au péché, mais se livrer à Dieu pour être sanctifié. Je comprends ça, mais il arrive quoi avec la loi de l'Ancien Testament? On doit-tu la mettre en pratique ou pas? Bien, Paul, il va y répondre au chapitre 7. Et là, il va dire que la grâce nous affranchit du péché, mais la grâce nous affranchit aussi de la loi. On est mort à la loi. Et là aussi, c'est très bien. Autant la grâce peut être mal comprise, autant la loi, compréhension de la loi peut être mal comprise. Paul va dire au chapitre 7 qu'on est non seulement mort au péché, mais qu'on est aussi mort à la loi. Il va le dire trois fois. Puis il va en donner l'exemple dans sa vie personnelle. Alors, premièrement, il va dire que si une femme, son mari décède, bien, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari pour pouvoir se marier à un autre. C'est quoi l'illustration que Paul y prend ici? Bien, son illustration, c'est qu'on était lié à un mauvais maître, le péché. Maintenant, on est lié à Jésus-Christ. Alors, c'est ici le point principal. Avec qui tu veux être marié? Avec le péché qui mène à la mort ou avec Christ et à l'Esprit de Dieu qui produit la sanctification et la vie? Paul va dire, maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Comment ça que la loi de Dieu produit le péché et la mort? Et Paul va dire dans son épître que le problème, d'abord, en partant, ce n'est pas la loi. La loi, elle est parfaite, elle est juste, elle est bonne, elle est sainte. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'on ne doit pas sous-estimer la puissance du péché qui nous habite. La loi, elle donne l'objectif, mais elle ne donne pas le moyen de l'obtenir. La loi, elle te dit quoi faire. Mais elle ne dit pas comment tu vas pouvoir le faire. Il y a seulement deux solutions. Soit que tu t'imposes de le faire, ou soit que tu vas à Christ pour saisir sa grâce et que l'Esprit Saint le fasse en toi. Et l'illusion de la loi, c'est de faire croire. Autant quelqu'un qui n'est pas chrétien que quelqu'un qui est chrétien. L'illusion de la loi, c'est de lui faire croire qu'il réussit, et là, il s'enorgueillit, ou qu'il ne réussit pas. Là, il se décourage, puis il se disqualifie. Là, Satan est bien content de ça, parce que dans les deux cas, il a gagné, soit un orgueilleux, soit quelqu'un de découragé qui lâche. Et ça ne glorifie pas Dieu. Paul va donner ensuite son témoignage personnel. Vous savez, il y a un gros débat à savoir si dans chapitre 7, Paul est en train de parler de lui avant sa conversion ou après sa conversion. J'ai tendance à penser que ça n'a pas tant d'importance. Que tu sois non-chrétien ou un jeune chrétien pour qui ce n'est pas clair, qui s'efforce par lui-même d'obéir au commandement de Dieu, bien l'un comme l'autre, il va frapper un mur. Paul, il va dire, « Nous savons que la loi, elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Si ce n'est pas l'Esprit-Saint qui agit en moi pour le produire, la loi va produire que du péché. Péché qui peut paraître bien beau, bien pur, bien juste, mais qui va être orgueilleux, dans l'orgueil. Pourquoi? Parce que, hein, chapitre 6, il a dit, il faut se livrer à Dieu, s'abandonner à lui, pour que ce soit lui qui le fasse en nous. Il va dire, puis là, ben, il va conclure, malheureux que je suis, qui me délivrera? En nous-mêmes, il n'y a aucune puissance pour faire la volonté de Dieu et accomplir les désirs de son cœur. Tout ce qu'on va réussir à faire, C'est une imitation bien misérable de ce que l'esprit peut faire. Alors, autant on ne peut pas avoir la vie éternelle par nous-mêmes, autant on ne peut pas être sanctifié par nous-mêmes. On peut juste reconnaître la puissance du péché qui habite en nous. Venir à Jésus-Christ, à chaque fois lui demander pardon et recevoir par sa grâce, hein, d'être rempli et conduit par l'Esprit-Saint pour faire ce qui est agréable à Dieu. Et on s'entend que l'Esprit ne fait pas moins que la loi. Il va faire la volonté de Dieu selon le cœur de Dieu. Et avec l'amour de Dieu, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Ah oui, j'ai rajouté cette image-là. Après avoir prêché ce message-là à mon église, j'ai réfléchi, je me suis dit, Satan, il prend un malin plaisir à monter les chrétiens les uns contre les autres. Hein, les chrétiens qui se permettent de pécher disent, c'est pas grave, on est sous la grâce. On va l'appeler les chrétiens permissifs. Eh bien, ils vont dire des autres chrétiens, ils n'ont pas d'affaire à me juger. C'est écrit dans la Bible de ne pas juger les autres. Puis les chrétiens qui s'efforcent de plaire à Dieu par eux-mêmes, puis qui se pensent orgueilleux, puis qui vont juger les chrétiens qui s'en permettent, vont dire, ils sont donc bien charnels, eux autres. Et là, Satan est mort de rire à monter les chrétiens les uns contre les autres. Ça, c'est une gang de charnels. Ça, c'est une gang de légalistes. Puis faire de la division dans l'Église. Fait que c'est comme... la vie chrétienne est un chemin étroit qui nous conduit à Jésus-Christ. Mais de chaque bord, il y a un fossé ou, si vous préférez, un dallo. Vous avez déjà joué au quai. Vous pognez le dallo de temps en temps. Bien, on essaye de viser au centre, hein? Mais ça ne marche pas à tous les coups. De temps en temps, on pogne le dallo de gauche. Fait qu'on tombe dans, on fait un ou des péchés. Puis de temps en temps, on pogne le dallo de droite. On se pense meilleur que les autres. Puis on devient un peu méprisant puis légaliste. Puis des fois, on se promène d'un dallo à l'autre. Fait que comme chrétien, notre réaction, ça devrait être: c'est qui le chrétien permissif? C'est moi. Moi, j'ai tout le potentiel d'être un chrétien permissif. Puis c'est qui le chrétien légaliste? C'est moi. J'ai tout le potentiel d'être un chrétien légaliste. Puis si je regarde ma vie chrétienne, bien, j'ai été un et l'autre à tout moment. Fait que la compréhension de l'Évangile non seulement produit une libération d'être affranchi, hein, du péché puis de toutes ses ramifications, autant dans le permissif que le légalisme, en même temps, ça produit quoi? Une humilité. Tu rencontres un chrétien permissif, hein? Écoute, la solution n'est pas là. Moi, j'ai fait la même affaire que toi, puis regarde, ça m'a conduit là, jusqu'à temps que je réalise ce que Paul dit au chapitre 6. Puis là, on l'exhorte, on l'encourage à aller au Seigneur Jésus. Veux-tu, on va aller au Seigneur Jésus ensemble. Tu rencontres un chrétien légaliste, soit qui est découragé ou qui est fier. Ben, tu sais, j'ai été exactement comme toi. J'ai tout fait ça, puis la solution n'est pas là. Regarde, on va regarder Romains 7 ensemble. Veux-tu, on va aller au Seigneur ensemble. Ça produit une humilité. Ça produit un amour. C'est-tu de la transformation, ça? Oui, oui. Ça, c'est de la sanctification, c'est de la maturité. Fait que quand on constate, hein, chez des chrétiens, dans une église, du légalisme, ou de la permissivité, ben, ah, il y a un peu d'immaturité spirituelle. Puis, je sais c'est quoi? J'ai passé par là. On priait. Seigneur, Seigneur, affermis ton Église, affermis les frères, sanctifie, révèle-toi. Conclusion, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Hein, Jésus dit, tout péché doit être pardonné aux hommes. Tu as mis ta foi en Jésus-Christ, tu as cru en lui. Il n'y en a plus de condamnation. Tu as de la misère avec le dallo de droite, tu as de la misère avec le dallo de gauche, avec les deux, tu reviens au Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit, là, Paul utilise le mot loi dans le sens de principe de vie ou de puissance. J'aime bien le mot puissance ici, ça aide à comprendre, car la puissance de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la puissance du péché et de la mort. Amen. Eh bien, quelle puissance tu veux qu'il agisse en toi? Mais c'est sûr que tu es chrétien né de nouveau. Tu veux la puissance de l'Esprit Saint. Tu veux goûter à la liberté glorieuse des enfants de Dieu, être affranchi du péché, autant dans son côté permissif que dans son côté légalisme, produit l'orgueil ou le découragement. Il n'y a rien de plus béni que la vie de l'Esprit. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Il me semble m'en manque un. La patience. Oh, c'était volontaire, j'ai oublié celui-là. J'ai plus de misère avec lui, avec les autres. Et l'humilité avec ça. Ça change une vie, ça change notre vie, puis ça change notre témoignage et ça change notre impact dans la vie des autres. Alors, as-tu reçu la vie éternelle? Es-tu né de l'Esprit? Mais ce n'est pas encore fait. Viens au Seigneur Jésus. Demande-lui de pardon. Tu ne peux pas te sauver par toi-même. Tu ne peux pas te sauver en venant à l'Église, par une pratique religieuse. Tu peux juste être sauvé par Jésus qui a payé tes péchés à la croix, qui a été condamné à ta place, puis tu l'acceptes, tu le reçois. C'est gratuit! Juste à l'accepter dans ton cœur. Fais-le maintenant! On prend un petit moment de silence, puis je t'invite à faire cette prière dans ton cœur. Ce n'est pas la prière qui sauve, hein? La repentance et la foi en Jésus qui sauve. Mais ça peut s'exprimer dans une prière. Prions. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, que je ne peux pas me sauver par moi-même. Il n'y a aucune puissance en moi pour devenir juste comme tu le demandes. Merci pour Jésus qui est allé à la croix, qui a porté mes péchés sur la croix. Ma condamnation. Je reçois le pardon de tous mes péchés, même ceux que j'ignore. La vie éternelle, tu m'offres la vie éternelle gratuitement. Je l'accepte de tout mon cœur. Je te prie de me remplir ton Esprit Saint. Faire de moi une nouvelle créature et de me conduire à chaque jour dans la vie nouvelle que tu as pour moi. Amen. Tu es chrétien, né de nouveau? Bien, c'est là, cette épître-là nous fait réaliser combien est-ce qu'on a besoin de dépendre du Seigneur Jésus-Christ puis de revenir à lui constamment. Seigneur, là, je n'ai manqué une. Je te demande pardon. Conduis-moi par ton Esprit Saint. Fais ta prière à tous les matins. Demande au Seigneur de libérer tes péchés habituels, puis de te conduire dans ta journée, puis de te garder en communion avec lui tout au long de ta journée. Ça fait vraiment une différence. Quand tu commences à faire ça, au début, je le faisais, une journée, je le faisais, une journée, je ne le faisais pas. Les journées que je ne le faisais pas, je voyais vraiment une différence. Alors, la solution de l'apôtre Paul, c'est livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort pour que l'Esprit-Saint conduise chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous accompagner, de vous conduire. On va prier. Merci Père. Ta précieuse parole qui est pleine de richesses. Merci de nous éclairer. Je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, on puisse partir d'ici avec une compréhension claire de ce que tu attends de nous. Seigneur, je veux te demander pardon particulièrement pour mon indépendance. Penser que je suis capable tout seul. Seigneur, c'est la plus grande illusion. Seigneur, aide-moi à être dépendant de toi et être pleinement en communion avec toi tout au long de la journée afin d'être conduit dans ta volonté et dans ton plan. Merci pour ton Église à Notre-Dame en laquelle tu agis par ton esprit, que tu fais grandir, que tu sanctifies. Continue ton œuvre, Seigneur, pour la faire grandir en toi et te manifester en son sein et te glorifier par des conversions puis des vies transformées. On te remercie au nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup, Patrice.
Merci Seigneur, j'ai pas eu de call.